Eh bien, effectivement, tribune rugby, donc beaucoup de monde ce matin. On est 15, exactement.
Exactement 15.
Jean-Michel.
Tout à fait.
Bravo. Pour revenir naturellement sur cette belle soirée. Enfin, Jean-Michel, à un moment, on n'en menait pas large quand même. Hein. On a eu peur. Hein.
Oui, on peut dire ça. On peut le dire, mais. Moi, j'étais confiant.
Ouais.
J'étais très confiant. Et puis, tu vas le voir à travers mon papier. À l'apéro, déjà, on était quelques-uns. Et c'est vrai que je voyais des gens qui étaient un peu sceptiques. Pour ne pas le citer, mon ami Jean-Michel, qui était relativement sceptique. Et puis, mon ami, qui est ici à côté de nous, qui n'était pas non plus très serein. Mmh. Bon.
Donc on va rappeler hein, l'équipe de France vainqueur 20-18. Auparavant, donc dans l'après-midi, l'Angleterre avait battu l'Australie 12-10.
Pour l'anecdote.
Oui, on aura une demi-finale France-Angleterre comme en 2003, la demi-finale.
C'est très bien. C'est très très bien et c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Mais bon. Oui, la France aujourd'hui peut rêver. Ce matin, la France peut rêver. Ce qui s'est passé hier soir, même les plus optimistes dont je faisais partie ne pouvaient pas imaginer un tel scénario. Du cœur, de la raison, du courage, une tactique venue d'ailleurs. On va y revenir hein, sur cette fameuse tactique. J'y tiens beaucoup à ce qu'on y revienne parce que ça défrayait un petit peu la chronique hier. Encore une fois à l'apéro. Alors jamais au grand jamais, on ne pouvait s'attendre à un tel dénouement, c'est clair. Et pourtant, si on y réfléchit bien, ce matin, à froid, quel était notre discours d'avant-match ? Alors je me revois hier soir à l'heure de l'apéro. Encore une fois, en compagnie de certains connaisseurs, dont Jean-Frédéric Poisson, notre député, à qui je disais, quand il m'a posé la question, je lui ai dit 50-50. Et il se montrait vachement sceptique. Quoi. Il me dit, tu crois, t'es un petit peu optimiste. Eh bien, ce matin, on se réveille avec une certaine jubilation qui se résume en une seule phrase, ils l'ont fait. Alors, que n'a-t-on dit sur les choix de Bernard Laporte, qui, comme à son habitude, il faut bien le dire, a défrayé la chronique ? Et pourquoi a-t-il fait ce choix ? Trail, pelouse, illégitime, comme on le disait. On disait que c'était des choix complètement illégitimes. D'ailleurs, cela ne te rappelle pas un dénommé Jacquet, il n'y a pas si longtemps ?
Absolument.
Hein, où on disait, mais pourquoi il a pris celui-là ? Pourquoi il n'a pas pris celui-là ? Bon, et tout ça... J'ai l'impression que, dans leur tête à eux, on ne peut pas se mettre à leur place. On ne peut pas se mettre à leur place, ils ont des raisons. Ils ont des raisons qu'on ne connaît pas. Donc, pourtant, ils réussissent. Alors, à l'heure du bilan, mais nous ne sommes pas encore champions du monde, mais à l'heure du bilan, on pourra dire, ces plans n'étaient pas si cons que ça. Hein ? Bien. Alors, ceci posé, on va pouvoir en débattre tous autour de la table, parce que je vois des sourires autour de la table, mais quoi qu'il en soit, ces plans ne sont pas si cons que ça. Bien. Alors, bien sûr, on pourra toujours dire que la stratégie initiale, celle de tenir les Blacks dans leur camp, grâce à des coups de tatane venus d'ailleurs, n'a pas toujours été payante. Mais cette stratégie a usé les Blacks. Et le coaching de Nanar a été, lui, extrêmement judicieux. Parce que l'entrée de Michalak, à un peu plus d'une heure de jeu, a été des plus judicieuses. On peut le dire, tous, là. Et cette entrée a contribué au succès des Bleus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont complètement déséquilibré les Blacks en jouant sur leur vraie nature à eux, les Bleus. Voilà, le succès d'une victoire qui restera, je crois, dans toutes les mémoires. Alors maintenant, le débat est ouvert. Vous allez être d'accord avec moi, vous allez me casser la gueule, vous allez me dire non, c'est encore un truc de journaliste. Mais on va faire le point ensemble.
Alors Jean-Michel, nous sommes 15 dans le studio, donc
on va
celui
tourner,
qui hein. veut s'avancer, ouais, vient voilà. Et puis vient s'exprimer,
absolument.
Donc, vient réagir donc à ses propos. Qui veut commencer, non?
J'en ai un là.
Allez, on y va.
J'en ai un à ma droite qui n'arrête pas de râler du matin au soir et j'aimerais avoir son opinion là.
Allez Michel.
J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu as
à
dire.
Moi j'ai à dire félicitations déjà. Bonjour à tout le monde.
Mm-hmm. Alors félicitations, c'est déjà un exploit que tu dises ça.
Ben oui, parce que bon, j'étais pas du tout, moi c'était pas 50-50, hein. C'était 70-30. Hein. Non, parce que c'est vrai, on aurait gagné contre l'Argentine, bon, il n'y avait pas... Bon, c'était pas les Blacks qu'on rencontrait en quart, c'était l'Écosse. Bon, l'Écosse, et puis que peut-être contre l'Écosse, on aurait eu plus de problèmes. Enfin, bref. Très beau match. Très beau match. C'est ce qui est un peu dommage. Enfin, tu le sais, Jean-Michel, c'est que bon, ben notre jeu à la française, ben il a un peu disparu. Voilà. On joue.
Il y a l'adversaire aussi. Hein,
qui... Et ouais. Les deux matchs, les deux quarts qui se sont joués hier, se sont gagnés devant. La défense, alors la défense prime sur l'attaque. Ben notre Ruby Champagne, ben il est un peu dommage. Moi je suis un vieux, c'est pour ça que je dois.
C'est ce que j'avais envie de te dire. T'es un vieux con qui revient toujours sur le jeu à l'ancienne. Le jeu à l'ancienne, ça n'existe plus.
Mais c'est pour ça. Nous avons vécu. Ben Dédé là, peut-être il confirmera. Je sais pas. Je ne sais pas s'il est d'accord avec moi ou pas. Mais moi, j'aime bien le rugby champagne, c'est marrant. Des essais, un essai de chaque côté, deux essais, bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on joue ? La force, hein ? La force, hein ? C'est pas... Enfin, c'est, bon, c'est très bien, on a gagné, c'est formidable, c'est merveilleux, puis on est... Voilà, c'est que moi, je me mets pas dans la tête qu'on est professionnel maintenant, voilà, c'est ça. Et que, bon, c'est tout, maintenant, c'est le professionnalisme qui prime, et voilà, et bien, il faut jouer comme ça, voilà, c'est tout. Mais, peut-être qu'on reviendra après.
Alors, question.
Voilà. Alors,
faut vous approcher du micro, Christian.
Oui, merci. Alors, immense, colossal. Bon, les adjectifs sont dithyrambiques, mais moi, je voudrais qu'on aille plus loin que notre nombril. Mmh. Et je voulais vous poser une question. Pourquoi le Sud a perdu le Nord ? Parce qu'il ne faut pas évacuer la performance de l'Angleterre. Bon, la France a gagné, c'est bien beau, mais l'Angleterre a quand même battu l'Australie. Alors,
Et de quelle façon ?
Alors, pourquoi le Sud a perdu le Nord ?
Alors, est-ce qu'on peut y répondre ?
Alors, allons-y, notre ami.
Bon, alors tout d'abord, André Schmitt, hein, je ne partage pas Jean-Michel quand il dit que notre ami Michel est toujours un passéiste ou un vieux con, disons qu'il n'a plus d'idée, mais bon, c'est pas grave. On va te pardonner. Dans l'euphorie de la victoire, on te pardonne. Bon. Que dire du match ? Bon, ben on est ravis. Moi, j'ai vu effectivement une belle équipe de France hier soir. J'ai vu des gars qui se sont défoncés à mort, qui nous ont fait vibrer. Ouais. Je sais pas, je crois que tout le monde est là-dessus. Alors pourquoi le Sud a perdu ? Bah parce qu'on nous a quand même mis en épingle et en exergue sans arrêt la force des Blacks, la percussion. L'Australie qui revient quand même, je fais remarquer qu'à 3 mois, l'Australie était dans les 36e dessous. Hein.
Tout à fait.
Faut pas non plus, faut relativiser quand même les choses.
Tout à fait, mais les Anglais aussi.
Les Anglais aussi. Bon, ils arrivent là, qu'est-ce que ça veut dire pour la semaine prochaine au Stade de France ? Il faut surtout pas prendre le match à la légère parce que comme disait Squasseri, hein, qui disait que les Anglais ne perdent jamais, mais il arrive qu'on les batte. Voilà. Bon, je crois que tout est dit là-dedans. Bravo pour l'équipe de France. On a vu une belle rentrée. Le coaching, encore une fois, a été déterminant.
Le bon moment.
Ça a été le bon moment. Je pense que d'un autre côté, la porte a fait plaisir à tous ces trentenaires. Ils ont tous joué.
Ouais.
Hein, les rescapés de la Coupe du Monde 2003, ils étaient là. Ouais. Et même d'avant, d'ailleurs, pour certains. Et bravo. Félicitations, chapeau bas et faites-nous plaisir encore une fois.
Et que dire de la performance de pelouse qui était pourtant très décriée, quoi. On avait dit, bon, on peut pas remplacer Nalé par pelouse. Or, il nous a démontré que ce vieux con, puisque il va raccrocher les crampons, il a tenu sa place et ô combien, quoi.
Il a de beaux restes encore.
Ouais.
Didier, une fois n'est pas coutume, moi je voudrais rendre hommage à un homme, l'homme en noir, l'arbitre.
Ouais.
Il a été d'une exceptionnelle qualité hier. Quand il est rentré sur le terrain et qu'on s'est aperçu que c'était un Britannique, on s'est dit aïe aïe aïe. Mm. Hein, on a pensé à White, etc. Mm. Et il a peut-être été, dans son domaine, le meilleur homme sur le terrain hier. Moi, c'est ce que je dis, j'ai rarement vu un arbitre arbitrer de cette manière.
Ce qui n'est pas le cas de Roland dans la.
Exactement.
Mais on va y revenir.
Qui a fait beaucoup d'impairs.
Ouais,
hier, pour moi, la qualité principale de l'équipe de France, ça a été son extrême discipline. Mm. Parce que quand on était sous nos poteaux, avoir réagi comme on a réagi, sans faire de faute, en regardant ses pieds pour voir si on était bien derrière le dernier défenseur, etc. Eh bien, on a eu une attitude tout à fait admirable.
Et responsable.
Et responsable. Parce que, sous nos poteaux, combien de fois on a pris 3 points à la dernière minute? Et là, effectivement, quand même, c'était extraordinaire. Et on a tous prié le bon Dieu pour pas que, qu'on tombe dans les mêmes travers que dans le temps.
Tout à fait, tout à fait. Bien, alors, un technicien encore. On peut dire que tu en fais partie. Alors, ton avis?
Christophe. Christophe. Moi, le 50-50, je le voyais pas, par exemple. Hein. Évidemment, je fais partie de ceux qui voyaient les All Blacks par rapport à ce qu'ils sont capables de sortir depuis quand même chaque année. Depuis quelques saisons, ils sont la régularité même. Et donc moi, franchement, je voyais pas 50-50. Mais pour revenir au jeu, il est vrai aussi qu'on a vu, on parlait du jeu à l'ancienne, des grandes envolées. Il est vrai que les All Blacks aussi hier n'ont pas montré le jeu qu'ils produisent habituellement. Hein, moi, j'étais surpris de les voir surtout faire des pick and go, avancer avec leurs avants. Bon, certes réduit à 14, le jeu l'imposait, mais par la suite, ils ont quand même pas, on n'a pas eu les grandes envolées qu'on espérait avoir. Alors la défense, évidemment française, a été extrêmement présente à mon avis, ce qui a fait que il a fallu que les All Blacks s'adaptent au jeu à la française. Moi, je pense qu'ils n'ont pas osé, ils ont eu peur du contre, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés un peu comme les Français contre France-Argentine, c'est-à-dire que les Argentins avaient attendu les contres en balançant de grands ballons, et que du coup, les All Blacks, eh bien, est-ce qu'ils ont réellement osé attaquer en envoyant des balles, en faisant des passes comme c'est leur jeu habituel? Je ne sais pas, ils ont été bloqués, ils n'ont pas été capables de réagir comme d'habitude.
D'accord. Mais ce qui veut dire que c'est les Blacks qui ont perdu et c'est pas les Français qui ont gagné.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que le jeu français a fait en sorte que les Blacks n'ont pas été capables. Ils ont déjoué. Exactement comme les Argentins nous ont fait déjouer de la même façon. Hein. Je pense que c'est ça. Ouais.
On est d'accord.
Gilles.
Après une analyse aussi fine, il m'est difficile de prendre le micro. Et moi, le champagne, le rugby champagne, je suis d'accord, mais j'aime bien le rugby et après le champagne. Alors d'abord, j'aurais une pensée toute particulière et tout ému, c'est pour nos amis néo-zélandais, parce qu'il faut savoir que chez eux, c'est un drame. Je crois que dans l'histoire du rugby, néo-zélandais n'avaient jamais mis autant de moyens, autant de temps, de moyens en hommes et aussi en argent. C'est une fédération qui financièrement est en difficulté, et je crois que à tel point que le président de la fédération néo-zélandaise, je crois qu'un jour pour se déplacer a payé de ses propres deniers son billet d'avion. Je pense qu'on pourrait noter ça quelque part, ça pourrait servir à quelques-uns en termes d'humilité et en termes au moins de gestion de fédé.
Non, mais c'est bien ce que tu fais là. Voilà, parce qu'il faut le rappeler ça.
Voilà, mais au-delà de ça, je crois que je pense à eux parce que d'abord effectivement ce matin dans leur pays c'est quand même c'est un choc. Hein, ils sont extrêmement déçus. Et je pense aussi que la Nouvelle-Zélande participe un peu comme le Brésil au football, à faire en sorte que c'est une compétition un peu extraordinaire dans le sens, c'est pas tout à fait la même chose. Une compétition avec les Nouvelle-Zélandais, c'est quelque chose de pétillant, ça a déjà un peu moins de saveur. Donc rien que pour ça, rien que pour leur participation et par au fait qu'ils nous ont fait rêver, parce que un France-Samoa aurait eu peut-être moins de pétillants. Je crois qu'il y a eu presque 20 millions de téléspectateurs hier soir sur TF1.
Ouais, je crois que ça a battu tous les records.
On va battre un record si la France est en finale. Les statistiques, enfin, les plus grands professionnels nous amènent à 25 millions de téléspectateurs. Ce qui veut dire qu'aussi les Néo-Zélandais ont participé à faire en sorte que ce mondial a un goût avec eux, enfin ces matchs ont un goût un petit peu particulier.
Comment
le sport fait qu'ils ont quitté la compétition, nous sommes les vainqueurs. Et la deuxième pensée que j'ai ce matin, c'est pour notre président Christian. Qui lui a alors lui là grand respect parce que il aurait pu y aller à pied, hein, il aurait pu faire Saint-Rémy-de-Compostelle, mais lui a choisi d'aller en car. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'on a un président. D'abord je lui ai demandé d'y aller aussi parce qu'on avait repéré quelques Tongiens et Samoas, ça c'est un scoop, qui n'étaient pas retenus par les clubs du Nord. Donc je me suis dit peut-être qu'à Cardiff on pourrait faire notre marché. Donc on a un contact, bon, il y a la barrière de la langue, hein, qui sont très très bien anglais. Mais donc il a pris le char, le bus, et il est parti pour à peu près 12 heures de bus à l'aller. Donc le planning était suivant, 12 heures de bus, 1 heure de bière avant le match, 2 heures de bière, et de nouveau 12 heures de bus. J'ai vu partir, je sais pas comment il va rentrer. Donc deuxième pensée après le Zélandais, à notre ami Christian. J'espère qu'entre temps, dans l'heure de bière qui lui était restée entre le quart et le match, il a pu prendre quelques contacts, parce qu'on va avoir besoin de se renforcer pour nos projets sportifs rambolitains. Là je ramène ça, excusez-moi, mais à Rambouillet. Voilà. Donc deux petites pensées ce matin.
Bien.
Bien. Oui, effectivement, je crois qu'il fallait, il fallait que tu passes à ce micro. C'était hyper important.
Merci.
Bien. Alors, un autre joueur de rugby qui fait partie des papas, qui anime un petit peu avec tous ses copains. Comment tu as trouvé d'abord, comment tu as abordé le match hier soir avant de tourner le bouton?
Perdant. Donc
tu fais partie de la majorité.
Ah, je vais même plus loin, c'est que vendredi soir j'ai fait un gros pari qui va me coûter très très cher. Ah. Donc voilà. Donc non, j'avais donné 67-12 pour les Blacks.
Ah oui.
Et j'ai appris les règles du pari après, beaucoup plus tard dans la soirée.
Ah oui.
Et ça va me coûter un peu cher, mais pas forcément qu'en termes d'argent, c'est surtout en termes d'image et d'image de mon corps. Enfin, c'est ouais. Un peu particulier, je peux pas en dire beaucoup plus, mais enfin, ça serait vendredi prochain sur le stade du Racine
à 21h. Il va faire un tour dans le plus simple appareil de
ça. Ah d'accord.
Voilà,
d'accord.
Donc ça m'a coûté un peu cher. Ceci étant, je suis très heureux de l'avoir fait parce que c'est quand même plutôt sympathique. Bon, moi, l'air Laporte, c'est pas ma tasse de thé, ça c'est clair. Je suis à peu près persuadé que c'est plus les joueurs qui ont réagi que véritablement quelque chose qui appartient à Laporte. Moi, d'ailleurs, on peut voir qu'en ce moment, Laporte, on ne voit plus. C'est Mazo qu'on voit beaucoup. Mais peut-être que maintenant, avec la victoire, on va revoir Laporte devant les écrans, ça c'est sûr. Bon, voilà, moi, je ne suis pas persuadé que cet homme-là est quelqu'un de tout à fait intéressant. Ceci étant, les joueurs ont su réagir parce qu'ils n'avaient pas le choix, surtout, de réagir autrement que de se mettre les tripes sur la pelouse. Je crois qu'ils l'ont fait. Oui, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y avait quasiment aucune faute. Ça, c'est remarquable. Ça, on a tous les images peut-être de Laporte dans les vestiaires en disant pas de faute. Je pense que hier soir, ça a dû être redit, sûrement. Mais moi, je reste assez persuadé que c'est un groupe qui a gagné. Ça, c'est une évidence parce que c'est un sport collectif, mais je ne suis pas sûr que Laporte y soit pour grand-chose là-dessus.
Je pense que c'est même dans ses choix tactiques.
Je pense que c'est une réaction d'homme au pluriel qui nous a amené hier soir à la victoire. Oui, moi j'en suis à peu près convaincu. Bon, un petit mot pour Betsen.
Oui, bien sûr.
Hein, parce que je crois que c'est un.
Et pour Marconnet peut-être aussi.
Oui, mais enfin Betsen.
Tant que tu y es.
Oui, mais enfin bon, moi j'ai un petit fait pour Betsen parce que c'est l'humilité, c'est l'exemple même du rugby, c'est-à-dire que je donne tout, je dis rien, et je trouve que c'est quand même assez remarquable. Il n'a pas beaucoup joué, hein, il a pris KO quasiment dans les 10 premières minutes. Voilà, bon, un petit hommage aussi à Betsen puisqu'on est dans les hommages ce matin. Voilà.
Bien. Alors, je te connais pas. Alors, tu te présentes, tu dis qui tu es, qu'est-ce que tu fais.
Alain, je suis dans la région depuis maintenant 2 ans.
Ouais.
Et, bon, j'arrive de différents endroits de France.
Du
sud, pas avec mon accent, non. Un petit peu plus de Lille, je pense, ou des trucs comme ça. Non,
c'est pas vrai.
On va rester alors sur la base de l'accent. Je viens de Tarbes, des Hautes-Pyrénées. Je suis originaire de cet endroit-là.
D'accord, bienvenue au club.
Voilà, ben, on va essayer de voir.
Chercher le Millennium à Paris.
Oui, à Rambouillet. Et voilà, j'ai trouvé, comment ça s'appelle déjà ce bar?
Le Roi de Rome,
voilà.
Bien, alors ton sentiment en tant que Tarbé. Parce qu'attention, attention. Je vais me faire incendier, mais il y a deux rugby. Hein. Il y a le rugby du sud-est et le rugby du sud-ouest.
Hein.
Ouais. Ce ne sont pas du tout, à mon avis, les deux mêmes rugby. Monsieur le technicien nous en parlera tout à l'heure.
Hier, on a vu du rugby du sud-est, alors dans ce cas-là.
Un peu.
Voilà, donc finalement, la différence entre le nord et le sud, ça va faire le sud-est. Je sais pas trop, on va voir. Mais en fait, ça prend surtout cette...
Non mais c'est important, hein.
Ouais, bien sûr, c'est clair.
C'est important.
Il y a eu 5-6 ballons sud-ouest, on va dire, et ça a donné 2 essais français.
Mm-hmm.
Pas beaucoup de jeux... Beaucoup de bagarres, de même dans les regroupements et toutes ces choses-là. Puis ça a donné pour moi, c'est les Blacks qui ont perdu. Parce qu'ils se sont évertués à essayer de contrer les Français, à vouloir les châtier comme jamais ils auraient châtié une équipe. Et puis, du coup, ils se sont plantés. Et ils ont eu peur de 99 aussi, de revoir 99. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont joué au rat, qu'ils ont refait ces pick and go et toutes ces choses-là, pour ne pas se faire contrer, ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de garder le ballon au pré et en même temps essayer de consommer les Français, mais ils y sont jamais arrivés.
Mmh.
Les Français étaient bien placés, ils se mettaient très bas, ils les plaquaient.
Mmh.
Ils ont réussi, les Blacks, à marquer deux beaux essais d'avant, parce qu'il fallait quand même le faire, avancer mètre par mètre pour envoyer après le plus vif, je dirais, à l'essai. C'était extraordinaire, c'était super bien fait, quoi. Ça, c'est du vrai jeu de l'hémisphère sud. Mais dans tout ce qu'on a vu, ce qu'on a dit sur un...
C'est intéressant ton analyse là, on va y revenir, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire.
Sur tout ce qu'on a vu depuis moi, hier, avant-hier plutôt, je disais tiens, on va se retrouver avec un 40-23, un match de folie, avec 40 points pour les All Blacks, 23 pour les Français, du jeu envoyé dans tous les sens, et puis non. L'après-midi, il y a eu cette Angleterre-Australie. Puis là, je me suis dit, putain, mais ça va se jouer à un point, cette affaire. C'est pas possible, parce que vraiment, l'hémisphère sud a vouloir s'évertuer dans ce jeu auprès, ce jeu de destruction. Ils ont perdu le Nord, quoi. Et là, ça a été bien. Et on s'est retrouvé à deux points d'écart sur les deux matchs. Et tout ça parce que, je dirais... On les a bouffés. C'est... Voilà, c'est tout. Conclusion de l'affaire.
Bon, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a un avis différent?
Il y a peut-être d'autres...
Est-ce qu'il y a un avis différent à son analyse qui est très intéressante, à mon avis?
Il est meilleur que toi.
Non? Tout le monde est unanime? Ok. Alors monsieur, connais pas non plus.
Je m'appelle Didier, j'ai aucune culture rugbystique. J'ai été amené à suivre cette Coupe du Monde parce que je suis tous les événements qui touchent aussi, de près la France.
Ouais.
Alors moi j'étais sûr que la France gagnerait parce certaines analyses qui ne sont pas rugbystiques comme vous allez l'entendre, mais à chaque Coupe du Monde la France perd un match. Là, elle a perdu son premier match, donc elle va gagner tous les autres jusqu'à la fin. Vous avez compris où je veux en venir? Pour moi, la finale, c'est France-Argentine que j'ai annoncé il y a déjà 3 semaines à mon ami Alain qui me disait « Mais non, Didier, t'y connais rien, t'es un Pink Floyd. » Et voilà. Moi, je suis persuadé que ça va être encore un superbe spectacle. Il y aura de la passion, il y aura du jeu français contre les Anglais. Ça va certainement être encore un score très serré. Ça va pas être ce que l'on a l'habitude de voir, ce que l'on aime, mais c'est quand même la Coupe du Monde et il faut passer par ce genre de match pour arriver à garder une Coupe du Monde chez soi. Voilà.
Bien. J'aimerais avoir. Tu peux venir en un petit garçon dans le. Et j'aimerais savoir comment tu as vécu ce match. Explique-nous un petit peu. Bien. Comment tu l'as vécu?
Bien.
Non, mais t'as été surpris?
Non, pas trop.
À l'école, tu parlais avec les copains, tu pensais que les Blacks allaient gagner?
Bah, il y en avait deux à l'école qui pensaient que les Blacks allaient gagner.
D'accord. Et toi?
Bah, la
Et toi?
France.
Toi, t'étais persuadé que la France allait gagner?
Pas vraiment.
Non.
Ah bon?
D'accord.
Mais je n'étais pas pour les All Blacks.
Oui, d'accord aussi. Là, d'accord aussi. Bien, donc t'es quand même content ce matin.
Bah oui.
Quand tu t'es réveillé, tu t'es dit on les a gagnés. Hein?
Pas vraiment.
Non.
J'étais plutôt content hier soir.
Hier soir?
Oui.
Et puis la nuit, ça t'a apaisé, quoi.
Oui.
Hein? Et donc c'est passé. L'enthousiasme est passé. Bien. Alors, on va revenir un petit peu avec notre ami technicien. Je me rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, vous disiez que, en fait, on manquait de beaucoup de choses. Alors, vous avez progressé?
Il y a 15 jours, on avait déjà parlé de ce futur match, cet événement, France All Blacks. Et on avait dit, si je me souviens bien, on avait proposé une façon de les jouer pour gagner.
Oui.
Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il faudrait mettre Boxis à l'ouverture et fonder le jeu sur l'occupation du terrain, à grands coups de pied. C'est bien ce qu'on avait dit.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ont fait les Français? C'est exactement ce qu'ils ont fait.
Bernard Laporte nous a écoutés.
Bernard Laporte nous a peut-être écoutés.
Il nous écoute, hein. Je vous signale qu'il nous écoute. Oui.
Alors, moi, je voudrais dire ceci. Tout à l'heure, j'ai posé une question un peu alambiquée. Ouais. Pourquoi le Sud a perdu le Nord? Je pense que nous sommes revenus à l'essence même du rugby. Qu'est-ce que c'est que le rugby? C'est d'abord du combat. c'est un sport de combat. Lorsqu'on l'analyse au niveau des activités physiques, le rugby est un sport de combat. Il ne s'agit pas de faire des passes pour faire des passes. Il s'agit déjà de renverser l'adversaire, de le maintenir dans son terrain et si possible de l'envoyer dans son embut. Voilà, c'est pas le ballon, hein, c'est les joueurs qu'il faut repousser au maximum. Et qu'est-ce qu'ont fait les Français, les Anglais? Ils ont proposé du combat à l'hémisphère sud. Et dans ce genre de défi. Cette forme de jeu, de défi, nous sommes meilleurs. Ouais. Et alors, moi, je m'inquiète sur le devenir du rugby. Parce qu'on s'aperçoit, d'abord, c'est des coups de pied, c'est la défense, et c'est un jeu d'avant. C'est d'abord la défense, ça confirme la dernière Coupe du Monde, un grand jeu au pied et un défi devant.
Oui, mais ça pose la question des nouvelles règles, tout de même.
Exactement.
Comment peut-on jouer différemment avec les règles actuelles? On ne peut pas jouer différemment.
Voilà.
Je ne pense pas.
On peut jouer, je pense, différemment, mais il faudra peut-être aller dans un autre sens, et de l'évolution des règles, parce que si vous avez bien observé les nouvelles règles qui se mettent en route, ça serait pouvoir effondrer les molles, et deuxième temps, pouvoir faire des talonnages à la main, hein, dans les amoncellements. Donc là aussi, ça ne va pas gagner en clarté. Parce que les avants ne seront plus mobilisés, dont le jeu déployé ne pourra pas trop se mettre en place. Alors, l'observation est la suivante, c'est que le jeu déployé à la française a très peu de chances de réussir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il est très difficile de passer la ligne d'avantage. La ligne d'avantage, je le rappelle, hein, c'est la ligne qui est perpendiculaire aux lignes de touche ou parallèle à la ligne d'embut ou des 22.
C'est ce qu'on appelle le premier rideau.
Et qui passe par le centre du ballon. Hein. Voilà. C'est très difficile par du jeu déployé, surtout en première main. Hein. Là, il faut qu'il y ait une faute de défense énorme. C'est très difficile de passer. Donc, on assiste à quoi ? Eh bien, on essaie de progresser avec le ballon, avec les avants et du jeu au pied. Pourquoi ? Parce que les défenses sont tellement performantes qu'il est très difficile de jouer comme ça.
Alors, on est bien d'accord. Mais est-ce que, je me tourne vers l'éducateur.
Ouais.
Vers l'éducateur. Est-ce que ce match peut être un match référence pour une école de rugby ?
Mike.
Dans la mesure où le sport français en général est basé surtout sur une défense maintenant, au niveau de tous les sports, aussi bien football, hand, n'importe quoi, on est axé au niveau sport français sur la défense. Premièrement, on joue sur la défense, ensuite on contre-attaque à tous les niveaux. Donc le rugby se colle à cette forme de jeu qui, pour les anciens justement, ne correspond pas à ce qu'ils ont connu à l'époque.
Absolument.
Donc voilà, mais c'est le mal du sport français en général aujourd'hui.
Alors, tu peux réagir, mon ami là. Tu peux réagir parce que je me rappelle d'une discussion qu'on a eue.
Non, je me rappelle pas moi.
Moi, je me rappelle. Moi, je me rappelle.
Ce que je peux dire, c'est que si jamais les nouvelles règles se mettent en place, eh bien, peut-être. À ce moment-là, on reverra un petit peu de rugby champagne, étant donné que il y aura plus ces amas de joueurs là, et puis voilà, et on gagne 25 cm. C'est pas moi qui y crois, une ébauche de nouvelles règles. Ah ben oui, si on peut écrouler, si on peut tout ça, il y aura plus de... Les avants seront plus pris, là. Alors après, on pourra ouvrir. Et là, peut-être bien qu'on reviendra un petit peu. C'est pour ça que peut-être bien qu'on... le rugby des années 70-80, peut-être bien qu'il reviendra un petit peu. Et puis, pourquoi pas? Parce que il faut pas oublier aussi, Jean-Michel, que quand tu vas voir un match, tu payes. C'est un spectacle. D'accord? Alors, moi, si je paye la finale, ça va être 5 ou 600 euros la place, grosso modo, hein, bonne place. Voir des amas de joueurs à grappiller le ballon et gagner 25 cm à chaque fois et ne pas voir d'essai, moi je suis désolé, c'est pas un spectacle que tu vas voir. Et là, on paye. Le professionnalisme dit, on paye, on veut voir du spectacle. Voilà. Et ça, il faut pas le négliger non plus, hein. Si tu veux amener du monde, bon, il te faut, ou si tu veux amener de l'argent, il te faut amener du monde. Eh ben oui, ça coûte cher, automatiquement. Et il faut faire du spectacle. Tu vas voir Johnny Hallyday, hein, si tu le, vois pas pour aller boire une bouteille de whisky, tu vas le voir pour le chanter. D'accord? Voilà.
Oui, moi je voudrais aussi aller dans ce sens-là. On amène de plus en plus au rugby des gens qui n'y connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas ce sport, et notamment un public féminin. Et moi, ce que je vois, c'est que souvent ma propre femme ou mes filles, elles disent, elles aiment beaucoup quand il y a des essais, quand il y a des petits tas, ça leur plaît pas. Donc je crois qu'effectivement il y a un problème de spectacle, et c'est vraiment ça. Si on veut attirer encore d'autres gens vers le rugby, il faut que ça soit quand même un rugby qui soit agréable à regarder, fait de passes et.
Alors donc. Que ça veut dire qu'on est un petit peu prisonnier, nous, bon, les soi-disant spécialistes, hein, mais on est un petit peu prisonnier de notre façon de l'interpréter.
Ouais, je sais pas, oui, après, mais il faut laisser les gens, enfin les spectateurs juger aussi, hein. Je crois que nous, on est, nous, on connaît ce sport, on analyse, mais après, si on veut que ce sport soit vraiment reconnu sur la planète, il faut aussi qu'il ait quelques avantages visuels ou télévisuels en tout cas.
D'accord.
Dans le truc des nouvelles règles, là, les Blacks, ils avaient commencé à mettre en place ces nouvelles règles. Ils jouaient des ballons debout, les avants n'allaient pas au contact. Enfin, tous les matchs qu'on a vus auparavant, le match du centenaire, par exemple, au Stade de France, avec ce merveilleux 40 à 10 pour les... il y avait plus de 40 points pour les Blacks et les Français 10 points. Mmh. Ils avaient proposé ce jeu-là, c'est-à-dire ils refusaient complètement l'affrontement qu'ils ont proposé hier. Ouais. Et ça marchait. Et tous les gens disaient, quel beau jeu ils font les Blacks. Ouais. Ça joue du numéro 1 au numéro 15, ouais. Il se passe le ballon, ça vole. C'est vraiment extraordinaire. On a des superbes joueurs. Hier, ils se sont évertués à faire le contraire. Ils n'ont pas voulu se faire contrer, certes. Mais ils n'étaient plus dans les futures règles. Mmh. Donc, il n'y a pas eu de spectacle. Mmh. Si les nouvelles règles arrivent... Et qu'on a la possibilité d'éliminer ces petits tas, de gratter le ballon, que jusqu'à présent on ne peut pas gratter, c'est plus du rugby, c'est des mecs qui vont se rentrer dans le rable, ouais, derrière un regroupement, qui font un pas en arrière, ouais. Ils se remettent. Là, on va commencer à voir du jeu. Ça risque d'être bon. Comme on dit.
Alors, ce qu'il y a de paradoxal, hein, dans ton discours, bon, les Blacks, tout comme les Anglais d'ailleurs, sont les détenteurs de ce jeu. Ce oui. sont, ce, ben oui, c'est quand même eux qui sont les qui possèdent le jeu, qui le possèdent. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui les Blacks deviennent vulnérables, quelles sont les références du jeu?
Ben, les références du jeu, c'est simple, hein, on va retomber dans ce que l'on voyait, presque au tout début du rugby quand c'est arrivé en France, c'est-à-dire la révolution du ballon qui a volé, quoi. C'est-à-dire que comme on va éviter les phases de contact, il va falloir aller de plus en plus vite dans la passe, donc dans la transmission du ballon, de plus en plus vite, ben, au près ou au loin. Donc tout ce qu'on a expliqué, je dirais, aux petits gamins ou à tous les joueurs, c'est-à-dire qu'on ne joue jamais à plat dans une défense, eh bien, peut-être que ça va tomber à l'eau. Mmh. Et qu'on va essayer de proposer des choses, justement, en se passant ce ballon, même dans une défense. Faut voir. Mmh. Mais dans ce cas-là, c'est une sacrée révolution.
Alors, donc, on pourrait peut-être autoriser une en avant.
Oui, peut-être. On va voir.
Non, mais ça veut dire aussi qu'on revient quand même à la notion d'évitement et non plus à la notion d'affrontement.
Voilà.
On est bien d'accord, là.
Au niveau éducateur, aujourd'hui, on a eu des consignes en réunion dernière, là. Il faut porter le jeu debout.
Voilà. Ouais.
On ne doit plus passer par le sol, on ne doit plus conseiller aux gamins d'aller au sol automatiquement. C'est-à-dire qu'on passe par le sol si vraiment on est bloqué et qu'on ne peut plus avancer. C'est vraiment aujourd'hui le discours de dernier ordre. C'est jouer debout et faire vivre ce ballon le plus possible.
Donc c'est une petite révolution.
C'est ce qui est imposé aujourd'hui chez nous pour le futur, en fait.
Mais ça va poser un problème sur l'histoire du rugby et la culture du rugby. Dans ce sport, le rugby, il peut être joué par un petit, un gros, un grand, tout ce qu'on veut comme physique, que dans ce style de nouvelles règles, on va avoir des gladiateurs. des gens qui vont mesurer 2 mètres, qui vont peser 120 kilos, qui vont courir à une vitesse pas possible, qui vont être capables de tomber, passer le ballon, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on va homogénéiser, à mon avis, la taille des joueurs. Et on va arriver sur un jeu qui va être joué par une élite physique. Et ça, moi, j'ai peur de ça. Comme il n'y aura plus ces petites phases de contact, les phases de grattage, ouais, et de trucs comme ça, ça va être joué par une élite. On a vu Chabal hier. Ouais. Ouais. Chabal, dans ce regroupement merveilleux, là où il va arracher le ballon, ouais, qui peut faire ça en dehors d'un mec grand, musclé, qui en plus a une tronche qui va mettre la tête là où personne ne serait allé mettre le pied. C'était n'importe quoi. Et il attrape ce ballon et il sauve les Bleus d'un essai merveilleux, d'un essai des Blacks. Quoi.
Ouais. Qui bien, je crois qu'on a tous compris, hein, et qu'on est tous à peu près d'accord dans ce studio. Je sais pas, la tribu des Schmitt, là, ils ont l'air d'être très...
Jean-Michel,
oui.
Juste un petit truc quand même. Le rugby, ça se passe bien devant, rassurez-moi quand même. Parce que tout le monde dit l'ancien rugby, mais enfin, il me semble quand même que, messieurs, à l'âge où vous jouiez, ça se passait quand même devant, non ? Il fallait bien quand même aller au combat. Il fallait bien quand même aller la gratter, cette balle.
Je suis content.
Alors, moi, je comprends pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les physiques que nous avons aujourd'hui, la bedonnante, etc., mais on n'est pas du tout dans les mêmes, proportions que les athlètes qu'on voit aujourd'hui. Enfin, je veux dire que le rugby, ça s'est toujours joué devant. Alors, aujourd'hui, on le joue un petit peu différemment, c'est-à-dire plus musclé, plus engagé. Enfin, bon, il se passait des fois des choses sous la mêlée à cette époque-là. Michel, je pense que tu as connu. Il me semble quand même que, mine de rien, si tu pouvais jouer en 9 ou en 10, c'est parce que tes gros avaient gratté la main. Je veux dire, je ne vois pas très bien où est le changement de culture. On a des changements de physique, on n'a pas des changements de culture. Avant, la défense était tout aussi importante que l'attaque. On jouait un peu plus, il y avait peut-être moins de conditions physiques. On est d'accord, c'est les physiques qui ont changé, c'est pas forcément la technique. Enfin, moi, je pense que le rugby, si ça ne se joue pas devant, il faut m'expliquer. Ou alors, en effet, on autorise les en avant et on fait du football américain.
Ou on joue au rugby à 7.
Mais et why not? Mais pourquoi pas? C'est pas le problème. Mais c'est bien quand même devant que ça se passe. Oui, ouais, on dit oui, il y a du combat. Bah, heureusement qu'il y a du combat.
Ouais, d'accord.
Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sport de combat. Bah oui, c'est un sport de combat. Alors, avec des gens. Comment?
Il y en aura de temps en temps, mais pas tout le temps.
Mais il faut y aller. Je suis désolé, sinon t'as pas le choix.
Je suis d'accord avec Thierry, parce que c'est vrai que il y a des cycles, hein, c'est comme tout. C'est comme en formation, tous les 10 ans, on réinvente la nouvelle formule. Et là, en l'occurrence, on parle de rugby, nouveau rugby. D'abord, concernant l'homogénéisation des gabarits, il suffit de voir la composition de l'équipe d'hier. Ils sont tous à plus d'un mètre 90. Ils ont un arrière qui fait 98, le nôtre, il faisait 100. Des 100 qui font 98, nous, Josion fait 105.
Pas trop sur les trois quarts, Gilles, quand même.
Les trois quarts, c'est hier, Josion fait 105, l'autre il fait 95. Non, mais d'accord, mais ils sont tous, il faut regarder. Hein. L'homogénéisation, on y est déjà, rougerie, tout ça, on est déjà dans des gabarits qui sont standardisés. Par contre, effectivement, à mon sens, le jeu debout, moi j'ai joué, je sais pas, j'étais jeune senior, on disait il faut pas passer par le sol déjà, et l'entraîneur s'appelait Alain Soula, il venait du Stade Toulousain, il nous obligeait à jouer debout déjà, donc c'était pas spécialement une révolution. Par contre, et en plus ça, j'ai la particularité d'avoir joué avec Michel, donc je suis pas un perdreau de l'année, certes, mais j'ai joué avec Michel et j'ai joué aussi avec les plus jeunes qui sont ici, donc entre plusieurs générations. À mon sens, ce qui a vraiment singulièrement changé au-delà d'effectivement les règles, c'est qu'effectivement la touche est déjà beaucoup plus claire, on y passe moins de temps. Les mêlées, on y accorde moins d'importance qu'on y accordait une époque, ça aussi, ce qui rend quand même les joueurs beaucoup plus disponibles. Et effectivement, les temps de jeu, il y a une époque, on pouvait attaquer des balles, même en première division, hein, on attaquait, je veux dire, des balles en première main. Aujourd'hui, ben, on va cloquer des essais, il y a des schémas de jeu, des tactiques sur une deuxième temps de jeu, sur un troisième temps de jeu. Donc effectivement, les temps de jeu se sont extrêmement multipliés, les défenses sont beaucoup plus disponibles, donc effectivement il y a moins d'espace, c'est beaucoup plus hermétique. Mais je pense pas vraiment, je veux dire, qu'on réinvente le rugby. Par contre, ce qui c'est effectivement, il y a quelques règles qui font que
sur les phases statiques,
sur les phases statiques, par exemple, font que le rugby évolue, et il est vrai que la professionnalisation font que les gars font ça à longueur de journée, les standards, les gabarits sont plus tout à fait les mêmes, on évolue. Donc je pense qu'on a tout joué au rugby, mais effectivement les moyens qui sont mis à disposition et puis l'espace qui nous est mis à disposition, je veux dire, est quand même différent. Il y a une vingtaine d'années, t'attaquais trois fois, troisième fois, il y avait un boulevard. Aujourd'hui, tu peux attaquer trois fois de suite, c'est toujours aussi fermé, parce que les gars, ils sont toujours autant. Donc, ce qui veut dire qu'il faut augmenter, je veux dire, le rythme de jeu, multiplier, je veux dire, les actions pour arriver à un moment donné, trouver un espace. Alors, on a dit le jeu par-dessus, on a vu que des fois, c'est un peu réducteur. C'est un outil, mais c'est pas une stratégie. Ça fait partie d'un panel de possibilités. Le petit coup de pied, la passe au pied, on l'a vu avec Michalak et l'ailier Vincent Clair, qui est une passe merveilleuse. Là aussi, c'est une arme, mais ça peut pas. On peut pas bâtir une stratégie sur tout un match. Donc, je veux dire, effectivement, les joueurs ont des disponibilités. Ils ont des règles qui évoluent. Mais in fine, le passage par au sol, la conquête. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu que le rugby passait par devant. Hier sur France Inter, il y a Walter Spongero qui expliquait un petit peu comment lui il a divisé son match. Il expliquait aussi qu'à son époque, ça passait par devant, il fallait des costauds. Parce que déjà à l'époque, c'était pas spécialement petit. Il y avait des gabarits qui étaient imposants. Et enfin voilà quoi. Et le jeu de devant, je vous rappelle qu'il y a quand même dans les années 70-80 une équipe qui a cannibalisé tous les titres de champion de France, qui était quand même Béziers. On peut pas dire que c'était spécialement des trônes. Par contre, il y avait une défense qui était perméable. Parce qu'ils avaient des troisième lignes qui étaient disponibles. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, un des meilleurs marqueurs d'essai du championnat français s'appelait Olivier Seyssé, quand même. Là aussi, que voilà. Donc, oui.
Alors, non, mais c'est très important de faire cette parenthèse parce que, rappelons-nous, pour revenir à ce que tu disais, ça commence devant et c'est. Ça sera tout le temps comme ça. Rappelons-nous un petit peu les combats de la seconde ligne avec Doga et qu'est-ce qu'ils faisaient ces gars-là ? Et tu les voyais jamais sur le terrain. Tu les voyais dans les petits tas.
La tête dedans.
Et puis on les voyait plus. Hein ? Pardon ?
La tête et les mains,
oui. Dans le cambouis. C'était et ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Alors bien sûr, on ressort des ballons pour un Guy Boniface qui va faire des mais des Guy Boniface n'ont plus leur place aujourd'hui, Michel.
Pourquoi ?
Non, ils peuvent pas jouer dans ce rugby moderne. Mais Codorniou, par exemple, tu veux le mettre dans l'équipe de France aujourd'hui?
Ah, mais c'est bien. Mais oui, on est en train de parler pour avoir soif là, parce que on est tous d'accord. Et on a soif. on est tous d'accord. C'est que si ça se joue maintenant, le petit jeune là, rugbyman, qui parlait tout à l'heure, qui disait c'est des costauds et tout ça, mais oui, du plus petit au plus grand, on pouvait jouer autrefois. Maintenant, je suis désolé, le centre est fait 100 kilos, 1m90, l'arrière idem, les ailiers c'est pareil, comment voulez-vous? Alors, il y aura que la place pour les mastodontes, les deuxièmes lignes à 2m5, et j'en passe et des meilleurs. Alors non, je suis désolé, il faut que ça soit ouvert à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. Hein.
Tu es jaloux.
Mais le rugby est ouvert à tout le monde.
Tu es jaloux.
Mais non, je ne suis pas jaloux. C'est pas parce que je fais 4m70. Non, mais.
Michel, c'est ouvert à tout le monde.
Mais c'est. Un peu moins maintenant que de notre temps. Un peu moins maintenant que de notre temps.
C'est ouvert à tout le monde, mais pour accéder à l'élite.
À l'élite, ben voilà. Ah ben oui, mais parce que. Mais qu'est-ce qu'on parle là? On parle de professionnalisme, on ne parle pas de Rambouillet qui joue un honneur. Tu vois pas, alors il faut voir. Non, parce que les petites équipes pourront toujours faire jouer des petits joueurs. Là, maintenant, tu vois, à part en équipe de France, les demi de mêlée, allez, explique-moi, dis-moi qui c'est qui fait moins de 80 kilos et d'1m90.
Non, mais je suis d'accord.
Alors.
On l'a dit tout à l'heure.
Oui, mais c'est ça.
D'accord.
Alors, ne mais faisons pas.
Le rugby total m'intéresse aussi, moi.
Ne faisons pas le comment dirais-je, grand et petit.
Plus de 90 kilos, par contre.
Oui, Gilles, tu fais plus de 90 kilos maintenant, mais il y a quelques années, tu les faisais pas. Ah, oui. Bon, maintenant, tu pourrais jouer peut-être un professionnel, alors qu'avant, que tu ne pouvais pas. Mettez 70 kilos.
C'est super. Moi, je trouve que c'est l'ambiance de cette émission.
Vous la donnez un peu l'ambiance, c'est parce que vous la donnez pas.
Mais ils vont revenir. Ils vont tous revenir.
Semaine,
ouais. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le match de l'Angleterre face aux Australiens, parce que on a assisté quand même à une explosion du pack australien.
Alors, face aux 12 Australiens, parce que le 3 majeur de devant, oui, on les a pas vus.
Et voilà.
Comme je disais tout à l'heure avec un peu d'humour, je suis pas sûr qu'à Rambouillet, ils en voudraient.
C'est pas fantastique.
Parce qu'ils ont été nullissimes.
Mais nullissimes, c'est du début à la fin, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez, ça?
Attends, mais souviens-toi quand même que la dernière rencontre, ils ont fait des mêlées simulées, quand même.
Oui. Mm-hmm. Oui, oui.
Attention.
Oui, non, mais ça
ça a jamais été le point fort des Australiens.
Oui, mais justement, ça vient de quoi?
Ah, mais moi, je pense que là, pour le coup...
Il n'y a pas de culture de...
Du devant?
Du devant?
Mais pas, peut-être pas à partir de la première ligne, après à partir de la deuxième et de la troisième. Et voilà.
C'est tout simplement que, quand même, pour en venir à ce match, les avant, le trio de devant la première ligne a été complètement dominé. Il a été bouffé par les cinq adverses. C'est-à-dire que les cinq Australiens ont été bouffés par le cinq anglais.
Mais quelle est l'explication rationnelle?
L'explication rationnelle, que tu as simplement des types qui sont plus costauds en première ligne. Pour qui le combat devant a été toujours une école.
Moi, il me semble me rappeler qu'à une époque, dans l'hémisphère sud, on avait un petit peu mis à l'annexe la mêlée, justement, pour pouvoir offrir du spectacle et du beau jeu.
Notamment chez les Australiens.
Et j'ai l'impression que, finalement, ils sont en train de payer un petit peu cette culture qu'ils ont mis en place du beau jeu, et bon, avec des avants qui combattent, mais où la mêlée fermée, le secteur de la mêlée fermée, était quasiment pas inexistant, parce qu'il continue à travers le Tri-Nation. Et on a très bien vu aussi que si les All Blacks continue à avoir cette mainmise mondiale, c'est parce que eux justement se sont retournés de nouveau vers la mêlée et qu'ils ont de nouveau retravaillé la mêlée. Et on sait très bien que c'est un de leurs points forts. Hein, ils possèdent très bien les quatre commandements, puisque on disait même qu'ils trichaient un petit peu. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment travaillé ce secteur-là. Et je suis pas persuadé que depuis quelques années ça soit le secteur prioritaire en Australie. On voit aujourd'hui effectivement le dégât, puisque comme le rappelait Eric, quand ils sont allés jouer à Twickenham, le dernier match Angleterre Australie, l'arbitre a demandé à ce qu'on simule les mêlées. Quoi. Je veux dire, c'est quand même étonnant dans un rugby professionnel et surtout dans l'image de notre culture de rugby que devant les avants ne poussent plus. Quoi.
Ouais, mais c'est normal parce que les Australiens, c'est pas leur sport majeur, le rugby.
C'est vrai.
Le combat, c'est pas leur jeu. Eux, ils jouent à deux autres jeux où certes il y a du combat, mais il y a du combat dans les lignes. C'est-à-dire que c'est justement là l'avenir des nouvelles règles, c'est que le combat il va se trouver dans les lignes. Le rugby rules, donc ce qu'ils appellent, ils appellent ça comme ça, c'est leur sport majeur. C'est-à-dire qu'ils vont, il faut voir ça parce que c'est des chocs en l'air, c'est des chocs dans les lignes, un petit peu de folie. Le rugby à 13 là-bas, la rugby league, donc qui va avoir vraiment quelque chose de du combat aussi dans les lignes, pas de combat d'avant, pas de gros qui jouent sur le terrain. Que des mecs qui rentrent dans le temps, mais avec de la vivacité et tout ça. Et puis aussi une homogénéisation.
Oui,
on l'a dit.
On a compris.
Et de la taille des joueurs dans toutes les lignes. Ensuite, il y a le rugby union. C'est celui que l'on voit, donc là où ils jouent. Et là, ils n'ont plus de joueurs pour aller faire des petits tas.
Alors,
ils n'ont pas de joueurs pour faire des mêlées. Ils n'ont pas de piliers. Je sais plus qui c'est qui. J'entendais ça à la télé hier. Il y a un ancien Australien qui a dit qu'ils avaient une première ligne pacotille.
Non, d'opérette.
D'opérette. Alors, est-ce que dans cette physionomie-là, est-ce qu'on peut dire que les Fidjiens sont dans le vrai?
Ouais, parce qu'ils sont très près du rugby à 7. C'est-à-dire ils font voler le ballon. Ils font de temps en temps des petites phases de contact, de même des petits molles, des trucs comme ça, mais ça va pas durer longtemps. Et après, ils peuvent s'échapper rapidement, ils font voler le ballon, ils mettent le feu, les autres équipes en général ne suivent pas, ou alors ils les contrent. C'est les Fidjiens, ou ils marquent, ou ils sont contrés. C'est comme ça. Mais ils font du beau jeu. Moi, cet après-midi, je vais me régaler à regarder ce match.
Ils pourront faire voler la balle quand ils l'auront gagné devant. Je suis désolé, il faut commencer par ça déjà.
Mais ça, c'est notre époque. Notre époque
alors,
est finie.
Les gars, il reste 5 minutes. J'aimerais quand même qu'on parle de l'avenir de cette Coupe du Monde, parce que on est à 20. Moi, je suis ravi d'avoir vu le Portugal qualifié pour une phase finale devant l'Uruguay en plus. Hein. Ils ont quand même éliminé. Il faut savoir que le Portugal a quand même une sacrée équipe de rugby à 7. Hein. Donc, ils ont déjà une petite culture du rugby. Mais est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire il faut maintenir le groupe de 20 en phase finale.
Tout à fait.
Oui. Messieurs,
c'est ce qu'on avait dit il y a 15 jours, à savoir qu'il fallait avoir l'esprit olympique et que même les petites équipes, et je mets des guillemets autour de petites, doivent participer, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Si, ça deviendra un tournoi des 10 nations ou des 12 nations sans aucun intérêt. Ça fait plaisir de voir jouer des équipes comme le Portugal, comme l'Italie qui est émergente maintenant depuis quelques années, la Roumanie qui marque le pas, c'est vrai, mais ça fait vraiment plaisir de voir évoluer des équipes comme celle-là.
Voilà, Géorgie, le Namibie. Bon, est-ce que...
Puis on les forme tous en France, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On oublie nos moins de 21 ans qui sont champions du monde, qu'on laisse sur le banc, mais on forme les joueurs étrangers, c'est remarquable. Donc je pense que le rugby étranger est tout à fait, et européen notamment, a une belle vie devant lui. Les joueurs français un peu moins, mais les autres... Oui.
Alors, on a eu, je vous pose la question parce qu'on a eu un petit colloque l'autre jour entre journalistes, des journalistes, donc des gens qui n'y connaissent rien. Et on était en train de... Enfin, il en est ressorti que ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de conserver cette ossature de 20 équipes pour une Coupe du Monde, et tous les deux ans, alterner et faire une Coupe du Monde de deuxième division avec qualification possible pour les justement les pays émergents. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce genre de truc? Non.
C'est pratiquement le rôle de la FIRA que tu es en train de nous décrire là. À quoi sert la FIRA? Explique-moi un peu là.
Je suis d'accord. On est bien d'accord, on l'a remis en cause.
Autrement dit, vous remettez rien en cause, vous remettez simplement, là, comme tu dis, les techniciens. Bon, là, c'est pas une attaque. Hein. Simplement que j'ai découvert, moi, personnellement, qu'il y avait un nombre de techniciens incalculables depuis que la Coupe du monde de rugby.
Et non pas des techniciens.
Si tu veux. Moi, j'appelle ça des techniciens de comptoir. Hein. Vous savez, le café du commerce, ça a toujours existé. Ça. Les yeux, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Hein. Oh putain, celui-là, pourquoi tu me le mets? Il est beau à rien. Et voilà, et tout le temps. Hein. Et ben ça existe encore. Et vous continuez, vous perdurez.
Allez, très vite, deux personnes, là, je crois. Très vite.
Ouais. Il reste 3 minutes.
Oui. Juste pour dire que de toute façon, c'est pas nous qui allons décider, puisque c'est les structures de la prochaine Coupe du Monde qui vont se jouer en Nouvelle-Zélande qui vont permettre ou pas d'accueillir ces 20 équipes. Voilà, le problème, c'est il est financier et il est dans les structures d'accueil. Or, la Nouvelle-Zélande accueille, mais n'a pas la possibilité d'accueillir 20 équipes. Il n'y a pas les stades, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc c'est un problème matériel, c'est même pas un problème de fond. Nous, on veut débattre, on dit que c'est évidemment, mais ça ne sera pas possible dans les conditions actuelles dans 4 ans.
Un petit mot, est-ce qu'on pourra avoir la même envie dans les yeux des Bleus que celle qu'on a vue hier soir devant le VACA?
Moi, j'ai trouvé ça, c'est bien,
ça. Extraordinaire.
Ça, on sait, c'est une belle image.
Là, il peut se passer quelque chose.
Ouais.
Oui, mais
si on peut
hier,
voir les mêmes yeux, ça serait pas
hier,
mal.
On leur avait pas lu la lettre de Guy Moquet.
Non, il l'avait écrite, je crois. Il l'avait écrite.
On n'avait pas lu Nietzsche ni Dostoïevski, apparemment.
Et question, une minute, hein, pas
plus. Oui, juste une minute.
Ouais. Alors, 20 ou 16 équipes pour la prochaine Coupe du Monde, c'est par rapport à l'objectif des dirigeants et par rapport à l'avenir du sport qui est le rugby. Est-ce qu'il doit tendre vers l'universalité ou la confidentialité? À un moment donné, en France, c'était uniquement dans le sud. Bon, le rugby a progressé vers le nord. Est-ce qu'il doit progresser vers les pays émergents? Moi, je pense que c'est souhaitable.
Parce et à ce sujet, porteurs... d'ailleurs, moi, je regrette beaucoup que la Coupe du Monde ait été attribuée à la Nouvelle-Zélande et non pas au Japon.
Voilà, oui. Et parce que le rugby est porteur de valeurs humaines, hein, et de relations et de formation de l'individu qui font que ça serait bien qu'il soit développé un peu dans toutes les parties du monde.
Voilà, c'est terminé. Merci, messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine.
On refait ça. Hein.
Allez.
On refait le match. Ouais. On refait le match la semaine prochaine parce que c'était vachement sympa. Ouais.
Et on a Afrique merci du Sud, donc Fidji cet après-midi, 15h, et ensuite Écosse-Argentine à 21h. Voilà, merci.
Le symbole de France. Alors. Le symbole de France.
RVE, il est 11h.